France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Accroître les aires de protection de la biodiversité. Réorienter des financements européens vers des productions plus durables, dans le cadre notamment de la nouvelle PAC, la politique agricole commune. Voici quelques mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron pour préserver la flore et la faune de notre planète. Le président français, qui s'était entretenu auparavant avec des experts sur le sujet de la biodiversité, experts réunis à Paris depuis la semaine dernière, ils ont dévoilé hier un rapport qui établit que jusqu'à 1 million d'espèces animales et végétales sont actuellement menacées d'extinction. La Chine aurait fait machine arrière sur un certain nombre d'engagements qu'elle avait pris face aux États-Unis lors de leurs négociations commerciales. Voilà pourquoi, justifie Washington, voilà pourquoi les États-Unis vont augmenter leurs droits de douane sur certains produits chinois. Le représentant américain du commerce estime toutefois que les représentants chinois resteront bien à la table des négociations en cette fin de semaine, comme cela était prévu. Ils sont restés emprisonnés 500 jours en Birmanie et les voilà sortis. Les deux journalistes de l'agence de presse Reuters, condamnés à 7 ans de prison pour violation de secret d'État, ont été libérés cette nuit en Birmanie. Ils enquêtaient en décembre 2017 sur le massacre de Rohingya dans l'ouest du pays quand ils ont été arrêtés. Et ils bénéficient donc aujourd'hui d'une amnistie présidentielle à l'occasion du nouvel an birman. Les habitants d'Istanbul voteront de nouveau, a priori le 23 juin prochain pour les municipales. Ainsi en a décidé le Conseil électoral supérieur qui annule la précédente élection. L'opposition avait vaincu le parti du président Erdogan à Istanbul pour la première fois depuis 25 ans, c'était en mars dernier. L'opposition qui dénonçait hier soir un acte de dictature flagrante après l'annulation de cette élection. Et puis notons que la trêve tient au Proche-Orient après un week-end de violence entre Israël et la bande de Gaza. L'armée israélienne annonce la levée de toutes les restrictions imposées jusque-là aux populations civiles israéliennes voisines de la bande de Gaza.
Les Outre-mer sur France Culture. Autrement, Perrine Cavran, Emmanuel Laurentin.
Avant la journée du 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, France Culture s'interroge dans la fabrique de l'histoire sur la notion ancienne d'outre-mer, constamment rechargée depuis 1945.
Et la journée continue dans la série documentaire. De l'Empire du Sucre au chlordécone, on vous emmène aux Antilles pour voir comment cette histoire complexe de l'esclavage pèse encore sur le présent.
Cette semaine dans la fabrique de l'histoire, dès 9h05, et dans LSD, la série documentaire à 17h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03 en ce mardi 7 mai 2019. Vous écoutez France Culture. Nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
La préhistoire, c'est tout sauf une vieille histoire. Bien au contraire, c'est un concept plutôt moderne. À partir de demain, le Centre Pompidou-Beaubourg propose une exposition qui ausculte cette énigme moderne. D'ailleurs, c'est ça le titre de l'expo Préhistoire, une énigme moderne, ou comment des artistes vont s'approprier ce thème en compagnie des scientifiques ou sans les scientifiques, juste avec leur imaginaire. Deux des trois commissaires d'exposition sont mes invités ce matin. Il s'agit de Cécile Debré et Rémi Labrus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, à vous qui nous écoutez tôt le matin à la radio et à tous les autres, de plus en plus nombreux, merci, qui nous écoutent par le podcast et l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Préhistoire, une énigme moderne, c'est donc la grande exposition de l'été du Centre Pompidou, Beaubourg. Vous pouvez la visiter jusqu'au 16 septembre et elle ouvre demain. Je suis donc avec les deux des trois commissaires de cette exposition, Cécile Debré et Rémi Labrus. Et donc cette exposition questionne notre rapport à la préhistoire, à cette idée moderne qu'est la préhistoire, vous allez nous le dire, et surtout comment les artistes ont travaillé avec cette idée avec ces scientifiques. Et dès le début de cette exposition, on est accueilli par cette citation de Borges, « Sur l'ombre que je suis gravite déjà la charge du passé ».
Oui, cette citation qui commence effectivement le parcours de l'exposition est là pour dire que c'est une exposition sur notre rapport avec le temps, pour dire qu'une des définitions de la modernité, c'est d'avoir transformé radicalement notre manière de, pas simplement de penser, mais de vivre le passé, et de le vivre sur un mode qui n'est pas uniquement historique, en comptant, disons, les siècles et les millénaires, mais en éprouvant quelque chose qui n'est pas comptable et qu'on a nommé, la préhistoire. Un peu contre l'histoire, finalement, ou au-delà de l'histoire, pour plonger dans un temps que Buffon disait abyssal.
Cécile Debray, sur ce que vient de dire Rémy Labruce, c'est aussi une manière de questionner comment les artistes ont imaginé la préhistoire.
Oui, on est parti d'un constat simple, c'est qu'en fait la discipline de la préhistoire se constitue en même temps que l'art moderne. Et donc c'est ce parallélisme qui nous a intéressés et la manière dont les artistes ont accompagné, je dirais, les différentes découvertes mobilières, les découvertes des cavernes, des grottes ornées, et ont en même temps repensé leur expression plastique, souvent sur le mode d'une tabula rasa, soit dans l'idée de réinventer un langage qui se distance en tout cas des expressions académiques. Et donc la préhistoire a souvent été une des sources, ou en tout cas un des moteurs de pensée très actifs pour, je dirais, l'ensemble des artistes du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, selon des mouvements, des étapes, une histoire comme ça qui se fait par regroupement. Et c'est en fait, l'un des axes majeurs de cette exposition.
Peinture, sculpture, photographie, mais aussi cinéma.
Oui, il est peut-être bon de souligner qu'en fait la préhistoire comme discipline se constitue également en s'appuyant sur la science-fiction, ou la science-fiction s'appuie aussi sur la discipline de la préhistoire. Donc c'est, comme le disait Rémy, cette sorte de réflexion sur la temporalité, sur le temps, qui est évidemment aussi un des déterminants de la science-fiction et qui va irriguer également tous les imaginaires populaires sur nos origines et également sur notre fin qui est annoncée. Donc c'est à la fois, on voit des artistes qui vont s'intéresser très près aux procédures, je dirais, scientifiques, de l'archéologie la plus pointue, aux questions de, par exemple, la vision en 3D, les reconstitutions. Ça, ce sont effectivement des modalités qui intéressent beaucoup les artistes contemporains. Et puis, en parallèle, évidemment, il y a tout ce fantasme des origines, le fantasme également autour de la sexualité, que l'on retrouve tant évidemment chez Picasso, qui est un artiste qui a beaucoup regardé les Vénus paléolithiques, les cavernes également, ou encore la vision d'un des Quirico qui va faire, je dirais, construire sa peinture métaphysique sur une sorte de mythe de la préhistoire et des origines, qui s'inscrit aussi dans une vision philosophique de cette question.
Et dans cette exposition, donc Préhistoire, une énigme moderne, vous avez eu la bonne idée de contextualiser toutes les pièces exposées, c'est-à-dire qu'on a en plus la presse de l'époque, et on voit bien que pour la presse de l'époque, c'était vraiment la grande affaire du XXe siècle, la Préhistoire. Rémy Labruce.
C'est toujours notre grande affaire. Hein, je pense que c'est plus qu'une découverte, c'est une expérience, c'est une épreuve qui est totalement bouleversante. Hein. Ce qui nous a semblé fascinant, nous, dans cette histoire qu'on raconte, effectivement, hein, on raconte l'histoire de l'invention de la préhistoire, en quelque sorte, c'est le fait qu'il y avait un immense ensemble de connaissances qui avait gravité autour de cet objet, mais que précisément, il gravitait autour d'un noyau irréductible, des choses qu'on ne saura jamais, tout simplement parce que c'est ces milliers de générations humaines qui ont vécu sans l'écriture, sans l'idée même d'une histoire, avec quelque chose de profondément stable en fait dans leur manière d'être. Hein, c'est tout le grand temps du paléolithique. Et ces choses-là, ces significations on ne peut pas les rejoindre. Et du coup, en fait, ce qui m'intéressait dans la discussion qu'on avait, de ce que disait aussi Cécile, c'est cette singularité, disons, de l'idée de préhistoire. La préhistoire, ce qui arrive, c'est, d'où le sous-titre d'ailleurs, une énigme. Hein. Et cette énigme, forcément, elle est prise en charge, c'est-à-dire la nature a horreur du vide. Donc quand le savoir n'est pas là, c'est pris en charge par de l'imaginaire, par de la création. Alors ça ne veut pas dire que c'est du rêve, ça ne veut pas dire que c'est des erreurs, des fantasmes, des vaticinations. Ça veut dire que c'est un mouvement créateur. Et donc la préhistoire devient vraiment un moteur de création. Et du coup, la préhistoire que nous avons, nous aussi, entre nos mains aujourd'hui, elle est presque autant fabriqué par des artistes et des écrivains, Proust, Balzac, enfin Borges que vous avez cité au début de l'émission, elle est autant faite par ces grandes figures de créateurs que par des savants. Et il y a un jeu d'interaction, si vous voulez, qu'on a essayé de montrer, et effectivement on a voulu le montrer, avec des documents d'époque. Il n'y a pas seulement des œuvres, il y en a plein, hein, des œuvres totalement sublimes, mais il y a aussi ce qui fait le tissu culturel dans lequel on évolue et qui a mis en avant cette préhistoire pour nous aujourd'hui.
Cécile Debré.
Oui, c'est pour ça que je réponds pour ouais. Donner une représentation un peu visuelle. Hein, il y a évidemment beaucoup de grandes vitrines avec des revues, avec des moulages d'objets préhistoriques. Mais il y a également tout un parcours qui est assez exceptionnel au Centre Pompidou, qui est celui des œuvres préhistoriques. Puisqu'en fait, on réunit dans l'exposition des chefs-d'œuvre de la préhistoire, sans doute parmi les premières, la Vénus de Lespug, hein, qui est présentée au plein centre de l'exposition, et il me semble que ça n'a jamais été fait, en tout cas dans cette ampleur. On a un parcours d'œuvres préhistoriques qui sont souvent iconiques, d'ouvrages effectivement de scientifiques ou de vulgarisation, y compris des films également pour évoquer la pop culture, qui sont montrés dans le parcours de l'exposition, et évidemment, tout un parcours d'œuvres modernes.
On est au musée Beaubourg pour cette exposition Préhistoire, une énigme moderne qui ouvre demain. S'il fallait faire la déambulation avec vous, Cécile Debré et Rémi Labrusse.
Oui, alors la scénographie est assez significative puisque l'architecte a choisi beaucoup d'arrondis hein, et puis sans doute un parcours un peu labyrinthique, en tout cas en volute. Et donc on commence, je dirais, de manière assez chronologique, hein, du point de vue de la modernité, mais également de la préhistoire, puisqu'on commence avec Cézanne et donc avec la Terre sans les hommes, donc cette question du temps long pour la géologie et qui nous permet d'aborder à la fois Cézanne, Redon, qui ont été sans doute les artistes les plus sensibles à cette question de la géologie, pour ensuite aborder plutôt les années 20-30 avec des figures comme Sutherland, des Quirico, son frère Savigno ou encore Max Ernst qui vont développer une sorte de vision presque politique liée à la question, je dirais, des origines et donc aussi de l'extinction, notamment face à cette découverte des dinosaures, hein, des fossiles de dinosaures qui interrogent effectivement sur un temps antédiluvien qui sera au centre de ces étoiles, je dirais, réalisées à un moment politique très troublé, qui est celui des années 30 et qui fait écho en fait à cette vision apocalyptique. Puis on poursuit notre chemin en passant par une très grande section constituée par Rémi Labrusse et Maria Stavrinaki autour de cette question d'inventer la préhistoire, qui rassemble énormément de documents, également d'œuvres préhistoriques. historiques, d'œuvres mobilières avec des Vénus qui permettent de montrer ce qu'a été la force de ces découvertes et de ces formes qui vont évidemment influencer beaucoup, je le disais, Picasso ou encore les surréalistes. Et là, on entre dans une section qui s'appelle Hommes et bêtes, où l'on décline plusieurs typologies, beaucoup de sculptures autour de ces Vénus qui ont fait l'objet de fascination donc pour des artistes comme Picasso, mais également Giacometti, mais également Joseph Beuys, ou encore des artistes espagnols comme Ángel Ferrand qui sont très sensibles à cette question de l'art préhistorique.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Préhistoire, une énigme moderne au Centre Pompidou-Beaubourg jusqu'au 16 septembre. Je suis avec deux des trois commissaires de cette exposition, Cécile Debray et Rémi Labrusse. Alors, vous nous disiez que c'était beaucoup plus notre vision de la préhistoire. Comment le XXe siècle, avec ses événements, avec ses peurs, avec ses grands bouleversements, a vu le passé ou s'est retourné vers la préhistoire, qui était donc une notion moderne dans le XXe siècle. Ce que nous dit cette exposition, finalement, c'est ce que nous avons vécu durant le 19e et 20e siècle, surtout.
Enfin, c'est le titre de notre exposition, une énigme moderne. C'est-à-dire que comme la préhistoire n'est qu'une question, elle est la possibilité de toutes les projections. Donc, effectivement, c'est à la fois... je dirais un renouveau plastique qui est réel parce que la découverte par exemple des grottes ornées va évidemment impulser profondément la question des installations, des espaces immersifs, du désordre de la composition des parois murales, et ça, beaucoup d'artistes vont s'en emparer. Mais profondément, effectivement, c'est vraiment cette réflexion sur le temps, sur l'origine, et également la sorte de vertige que vont avoir les artistes, mais également, je dirais, l'ensemble de la société face à la perfection technique des objets et des représentations dans les grottes ornées. Donc en fait, dans l'exposition, on marque un temps d'arrêt beaucoup sur cette question des grottes ornées qui forme une sorte de pivot autour de la Seconde Guerre mondiale, autour de Lascaux, et qui nous permet d'évoquer à la fois ces questions d'échelle qui vont avoir un impact très fort tant sur des artistes américains que sur les grandes installations, par exemple de Pino Galizio, qui recrée une grotte ornée. Et nous poursuivons ensuite le parcours sur le tournant que représente le néolithique.
Et tout ça, on a l'impression de passer de cave en cave. D'ailleurs, il y a une caverne réellement à la manière préhistorique, comme si c'était une grotte dans cette exposition, Rémi Labrusse.
Oui, le motif de la grotte, ou d'ailleurs même l'espace tout simplement de la grotte, est une structure profondément inspirante pour les artistes, en particulier à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Je pense que c'est le modèle par excellence du refuge, de ce qui va vous conduire à être plus ou moins hors du monde, tout en étant en même temps dans un univers ultra physique, très très très sensuel. Et alors du coup, un certain nombre d'artistes ont reconstruit des grottes, ont créé des grottes. Cécile a parlé de Pino Galizio dans les années 50, hein, mais encore aujourd'hui, quelqu'un comme Claudio Parmigiani, qui a fait pour nous une œuvre monumentale qu'il intitule Crypte, imagine finalement cet espace donc comme une grotte dans laquelle sont disséminées des empreintes de mains, sur le modèle des mains positives qui étaient donc souvent présentes dans les peintures paléolithiques, voilà, et donc présente ces empreintes de mains dans une quasi-obscurité. Donc c'est une expérience très particulière, hein, pour le visiteur. Finalement, c'est, il va dans un musée pour ne rien voir ou pour voir quelque chose qui apparaît de manière à peine distincte au cœur de la pénombre. Et ça, c'est vraiment l'expérience de la grotte, hein, effectivement. C'est quelque chose de matriciel, si vous voulez, quelque chose qui vous enveloppe, qui est à la fois assez inquiétant, et en même temps, paradoxalement, ça se fait dans le même moment, très inquiétant, enfin, ou assez inquiétant, et profondément sécurisant. Et voilà, et c'est deux choses contradictoires, mais c'est deux choses qui existent en même temps et que l'artiste moderne essaye effectivement de bon, on a parlé de Pino Galizio ou de Parmigiani, on pourra en évoquer beaucoup d'autres, qu'il essaye de revitaliser en quelque sorte, hein, de rendre présent pour lui-même et pour nous aujourd'hui.
Parle-nous de cette grande toile de Graham Sutherland.
C'est un drôle de truc, effectivement. On est en dans l'Angleterre des années 40 et 50, hein. Ce monde donc anglais est très inspiré par la préhistoire depuis longtemps, depuis le milieu du 19e siècle, et Sutherland fait partie de toute cette génération donc des années 30 et 40, qui va perpétuer, hein, une inspiration venue de ça. Et alors, donc il appelle ça l'origine de la terre, l'origine du territoire, en fait il faudrait plutôt dire, parce que the origin of the land, donc c'est pas la terre au sens de la planète, hein, c'est vraiment le territoire anglais. Et ce territoire anglais, qu'est-ce que c'est pour lui? C'est remontant des profondeurs de la terre des fossiles. Et le fait est que au 19e siècle, les premiers fossiles d'animaux disparus, de dinosaures en fait, ont été trouvés sur les côtes du sud-ouest de l'Angleterre, hein, le Dorset en particulier, qui a été vraiment le lieu de découverte de ces fossiles. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que Sutherland s'en souvient, et il y a une dimension incontestablement nationaliste, hein, dans sa présentation, gigantesque toile, qui est une sorte de programme en fait de d'ode à l'éternité du sol anglais. Mais il y a évidemment beaucoup plus que ça, parce que à travers chez Sutherland, il y a aussi un rapport avec Picasso, il y a aussi un amour du sol comme tel, si vous voulez, hein, de la signification qui remonte du sol. Et on a ça à l'intérieur de cette toile qui mesure 4 mètres de haut, donc qui vous enveloppe, hein, c'est comme si on rentrait à l'intérieur de cette couche stratigraphique et qu'on était enveloppé par tout un monde de ptérodactyles à moitié formés d'ailleurs, qui montent des couloirs des mines de charbon de Liverpool ou d'ailleurs, quoi.
À chacun sa préhistoire, Cécile Debray.
Alors peut-être qu'il faudrait parler des artistes contemporains dans l'exposition, effectivement, à chacun sa préhistoire. Oui, on peut voir dans la dernière section, on a mis en présence des artistes très différents. Beaucoup reprennent cette question qui est aujourd'hui très à la mode de l'anthropocène. Je pense par exemple à une œuvre de Pierre Huyghe, qui Human Mask, qui montre donc dans une vidéo une mise en scène presque post-apocalyptique, dans un restaurant dévasté, un singe portant un masque de petite fille servant dans un paysage de ruines. On sait que Pierre Huyghe a filmé via un drone le paysage dévasté par le tsunami et la catastrophe nucléaire, qui en plus est mis en relation avec la figure du singe et qui est donc tout à fait une sorte de relecture de ce fantasme de la préhistoire que l'on peut retrouver également dans le film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, avec cette figure du singe. Donc c'est une œuvre qui est très très référencée, avec beaucoup d'allusions, et qui s'inscrit totalement dans cette vision, ce pas de côté par rapport à la préhistoire. Une autre œuvre également qui va sans doute fasciner le public, c'est une installation des frères Chapman, qui montre une forme forêt de socle portant des petits dinosaures en carton-pâte et qui évoque le moment exact de l'extermination des dinosaures au moment de la chute de l'astéroïde sur la Terre. Donc une vision évidemment un peu grinçante et loufoque hein, qui est celle de l'univers de ces deux artistes anglais et qui montre bien comment le thème pop de la préhistoire, hein, celui des grandes sagas autour des dinosaures qui a été cultivé, je dirais, aux États-Unis, devient une sorte de fable politique, de miroir sur notre monde et sur cette menace de la disparition.
Puisque vous parliez justement de dinosaures, on voit le premier dinosaure animé par Winsor McCay, donc le créateur de Little Nemo, c'était en 1914, donc le début du cinématographe. Et on passe par Buster Keaton aussi, son interprétation jusqu'à Wim Wenders.
Oui, le cinéma a été extrêmement important hein, dans la vulgarisation de la préhistoire, la fascination évidemment pour ces dinosaures. Il est assez piquant de remarquer que le premier dessin animé a été fait autour de cette figure du dinosaure. C'est toujours, en fait, ça s'appuie beaucoup sur la science-fiction qui met souvent en scène en fait une communauté scientifique, d'archéologues qui s'interrogent sur un fossile ou sur une volonté de reconstituer ce monde disparu et qui s'engagent dans une expédition à la recherche de ces espèces oubliées. Donc c'est souvent à peu près le même schéma qui est traité soit dans le thème de King Kong ou le thème de The Lost Land, The Lost World et que l'on décline de manière assez modeste hein, dans l'exposition, ouais. mais on a mis quelques jalons effectivement qui permettent d'évoquer cette culture populaire qui va être évidemment très regardée et très utilisée à partir des années 60, c'est-à-dire vraiment au moment du pop art par les artistes.
Pop culture, cinéma, mais bien avant le cinéma, il y a bien sûr des peintures, des grands chefs-d'œuvre, des grands noms, donc toiles, sculptures, des pièces assez rares, des documents de l'époque qui traversent un peu tout le XXe siècle. Comment on a abordé, on a vu, on a imaginé, on a enquêté sur la préhistoire et comment se termine cette exposition? Par quoi vous allez terminer pour qu'on reste sur cette énigme moderne qui est la préhistoire, pour reprendre l'intitulé de cette exposition, Rémi Labrusse?
Ouais, c'est exactement ça. On veut terminer par un point d'interrogation. On commence par une question et on finit par une question. Et donc la dernière salle fait écho à la première. Si vous voulez, dans la première, il y avait le crâne de l'homme de Cro-Magnon qui répondait à une petite toile de clé qui s'appelait Le Temps. Et à la fin, vous avez une petite statue des Cyclades. Donc en fait, la Grèce, juste avant, très archaïque, hein, au milieu de l'âge du bronze, juste avant l'invention de l'écriture, juste avant l'arrivée de l'écriture en Grèce. Là, l'écriture existe déjà en Égypte ou en Mésopotamie, elle n'est pas encore en Grèce, pour dire, bon, on est juste avant le début de l'histoire, quoi. L'histoire au sens propre, on va écrire des histoires, premièrement. Et deuxièmement, en face, une grande installation de l'artiste de l'Arte Povera, Giuseppe Pennone, qui s'intitule La structure du temps, et qui fait écho, si vous voulez, au petit tableau de clé qui s'appelle Le Temps. Hein. Donc, en fait, le message, c'est celui-là, c'est ce que nous dit la préhistoire, c'est que fait-on, nous, humains, aujourd'hui, dans le temps, hein, et comment est-ce qu'on va habiter le temps et de quelle manière on va transformer radicalement, parce qu'on y est obligé aujourd'hui, notre rapport au temps.
Et quelle trace on va laisser?
Et qui plus est, si on laisse une trace. Hein.
Merci Rémi Labrusse, merci Cécile Debray.
Merci à vous.
Oui, merci, au revoir.
Préhistoire, une énigme moderne, c'est donc la grande exposition de l'été du Centre Pompidou, Beaubourg. Vous pouvez la visiter jusqu'au 16 septembre et elle ouvre demain. On parlera de préhistoire vendredi prochain également, notamment pour évoquer le personnage mythique de Raon. Et puis le week-end prochain, tout France Culture sera présent au Centre Pompidou pour deux jours de programme dans le cadre du festival Imagine. Vous pouvez désormais réécouter cette émission en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la technique Antoine Viossa. Bonne matinée et à demain.
Vous êtes sur France Culture Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes, c'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr. Inédit, l'ami prodigieuse sur France Culture. L'Italie d'après-guerre dans un quartier populaire de Naples. Deux héroïnes inoubliables. La timide Elena, fascinée par l'aplomb, la révolte de la sauvage Lila. Proches, contraires, leur destin croisé. Suivons-les.
Il faut que tu continues tes études.
Mais j'ai fini.
Si au lieu de réparer les chaussures des autres, tu fabriquais des chaussures neuves.
Traduite dans le monde entier, la saga d'Elena Ferrante, d'une puissance littéraire inédite dans le paysage de la fiction, Amira Khazar dans le rôle de la narratrice.
Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. C'était la vie. Un point, c'est tout.
Le feuilleton, du 6 au 17 mai à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une nouvelle élection municipale se tiendra à Istanbul. Celle de mars est annulée. Le président Erdogan y avait été battu pour la première fois. L'opposition dans le pays crie à la dictature, vous l'entendrez. 1 million d'espèces menacées sur la planète. Les experts de la biodiversité alertent et Jacques Munier s'y penchera. Ce sera après ce journal. Avant cela, dans cette édition, nous reviendrons sur la réunion à Matignon hier entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Le dialogue reprend. Et puis nous entendrons les inquiétudes des professionnels du cinéma. Réflexion autour de la réforme de l'audiovisuel en France dans moins de 10 minutes. Commençons donc par cette indignation de l'opposition en Turquie. Les municipales à Istanbul ont été annulées hier, reprogrammées à la mi-juin. L'opposition avait remporté ce scrutin à 13 800 voix près face au parti du président Recep Tayyip Erdogan. Lui a officiellement contesté ces chiffres. Il a donc obtenu gain de cause auprès du Haut Conseil électoral. Le candidat de l'opposition, İmamoğlu, qui occupait officiellement le poste de maire d'Istanbul depuis le 17 avril, lui a réuni ses partisans. Hier, il s'est montré plutôt combatif, Anne Handlauer.
Depuis que le Haut Conseil électoral a invalidé sa victoire, Ekrem İmamoğlu n'est plus le maire d'Istanbul. Mais alors qu'au sein de l'opposition, certains plaidaient pour un boycott en cas de nouvelle élection, le vainqueur du 31 mars est apparu déterminé devant des milliers de partisans qui réclamaient la démission des instances électorales.
En multipliant les contestations, ils se sont mis à faire pression et à menacer le Haut Conseil électoral. Et ce dernier courbait l'échine. Je condamne le Haut Conseil électoral. Je le condamne.
Ekrem İmamoğlu n'a pas appelé ses partisans à manifester. Il les a appelés au sang-froid.
Nous n'abandonnerons jamais. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce processus. Certains d'entre vous sont peut-être inquiets, certains sont peut-être désespérés. Essuyez vos larmes. Nous sommes ici et nous travaillerons tous ensemble.
Ekrem İmamoğlu le sait, la victoire ne sera pas facile. Mais s'il y parvient une fois de plus, ce sera un coup sévère dont le président turc Recep Tayyip Erdogan aura beaucoup de mal à se remettre.
Anne Handlauer à Istanbul pour France Culture. Là, il ne s'agit pas d'élections mais de négociations politiques. En Irlande du Nord, les discussions s'ouvrent aujourd'hui pour tenter de constituer un gouvernement. Cela fait en effet 2 ans qu'il n'y a plus d'exécutif dans cette province puisque partis catholiques et protestants n'arrivent pas à s'entendre. Les explications sur place d'Éric Albert.
L'Irlande du Nord traverse une sérieuse crise politique depuis 2 ans. Le partage du pouvoir mis en place entre le principal parti catholique, le Sinn Féin, et le principal parti protestant, le DUP, ne fonctionne plus. Officiellement, le gouvernement a chuté en 2017 pour une affaire de corruption, mais en fait c'était à cause d'années de vexations et de mauvais coups entre les deux camps. Par-dessus cela, il y a le Brexit qui divise profondément les deux communautés. La mort de Lyra McKee le mois dernier pourrait changer un peu la situation. La jeune journaliste couvrait des émeutes à Derry quand elle a été touchée par une balle perdue de la nouvelle IRA, un groupuscule dissident paramilitaire. Ça a provoqué une énorme émotion et pendant les funérailles, les leaders du DUP et du Sinn Féin étaient présents côte à côte. un prêtre catholique leur a posé la question « Pourquoi a-t-il fallu cette mort pour les réunir ?» L'ovation de la foule dans l'église a mis alors très mal à l'aise les deux dirigeants. Reste que leur rencontre aujourd'hui pour essayer de trouver un compromis s'annonce difficile. Tant que le Brexit n'est pas résolu, il sera compliqué de faire le moindre geste et les décennies de méfiance entre les deux communautés, même après 20 ans de paix, ne disparaîtront pas si facilement.
Je suis journaliste et je vais continuer. Voilà la première déclaration d'un des deux journalistes de Reuters, l'agence de presse. Il a tout juste été libéré de Birmanie avec son collègue. Il avait été arrêté en décembre 2017, lors d'un reportage sur le massacre des Rohingyas, les musulmans, dans l'ouest du pays. 500 jours plus tard, les deux journalistes sont donc libres grâce à une amnistie présidentielle. Arrêtons-nous maintenant sur la visite du pape en Bulgarie. Il doit quitter le pays dans la matinée pour rejoindre la Macédoine, où il honorera la mémoire de Mère Teresa, un pays, la Macédoine, compliqué, tout autant que ces derniers jours passés en Bulgarie. L'église orthodoxe est majoritaire dans le pays et refuse de dialoguer avec Rome. C'est un reportage de Mathilde Imberti.
La rencontre interconfessionnelle pour la paix est boudée par l'église orthodoxe bulgare, pourtant la principale religion du pays. Les orthodoxes bulgares refusent de participer aux instances de dialogue officiel entre chrétiens. Une attitude anachronique retiennent bien des jeunes du pays. Christian, un jeune catholique.
Je ne comprends pas ce comportement. Pour moi, les chrétiens sont pareils. Tu es chrétien quand tu crois à Jésus-Christ et à la Sainte Trinité, peu importe de quelle confession. Je ne comprends pas. Le pape, lui, parle de tolérance et de coexistence. Des religions.
Le pape, en effet, poursuit son plaidoyer pour l'unité des chrétiens. Qu'importe s'il doit prier seul à la cathédrale de Sofia, les orthodoxes refusant de se joindre à lui. Qu'importe que la rencontre interreligieuse de clôture se déroule sans eux, son discours ne varie pas.
La paix exige et demande que nous fassions du dialogue un chemin, de la collaboration commune notre conduite, de la connaissance réciproque la méthode et le critère.
Demain, en Macédoine, il fera face à une autre problématique. Là-bas, l'Église a déclaré son autonomie. Donc, pour ne fâcher personne, dans la galaxie orthodoxe, le pape ne devra rencontrer aucun haut dignitaire religieux.
C'était Mathilde Imberti, envoyée spéciale en Bulgarie. Il est 6h36 sur France Culture. La biodiversité est en danger par notre faute. Voilà en substance le contenu du rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité. 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction sur notre planète. Hier, Emmanuel Macron en a profité pour faire plusieurs annonces à ce propos, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Le président de la République a également remis en cause le projet de la Montagne d'Or en Guyane, du nom de cette mine d'or géante qui devait être exploitée d'ici 3 ans. Ce que je sais du projet ne le rend pas compatible avec une ambition écologique. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et il était question d'écologie hier aussi à Matignon. Écologie et emploi. Le Premier ministre Édouard Philippe a reçu des syndicats, patronats et associations dans la suite du grand débat national. Un changement de méthode assumé pour renouer avec les corps intermédiaires. Écoutez Édouard Philippe.
C'est une façon de régler des problèmes pratiques et concrets qui se posent objectivement. Et j'observe que tous les acteurs qui étaient là ont parfaitement conscience que seul, personne n'est capable de les régler. Et donc, territoire par territoire, il faut qu'on fasse de la haute couture d'une certaine façon, en tout cas du sur-mesure, pour être certain que les solutions concrètes sont bien apportées et que les changements se voient.
Du changement, il était temps, lui répondent les élus du territoire. Il faut retrouver la confiance, insiste par exemple François Barouin, le président Les Républicains de l'Association des maires de France.
C'est certain, ça n'a pas très bien démarré. Des désaccords sur la politique, il peut y en avoir. Des désaccords sur la méthode, il peut y en avoir également. Tout cela additionné en aussi peu de temps, ça a fait beaucoup. Nous avons fait corps, je l'ai dit, aux côtés du président de la République au moment du grand débat. On n'était pas loin du chaos, ça a secoué très fort dans le pays. Et nous avons facilité, animé, transmis les revendications des administrés auprès de l'État dans le cadre de ce grand débat. Nous pensons que cette idée d'une grande ambition, d'une décentralisation où l'État va se recentrer sur ses missions, la sécurité, la défense, l'éducation, la santé, et va laisser tout le reste, au fond, à ceux qui peuvent le mieux le faire, c'est-à-dire les régions, les départements ou les communes, c'est probablement même une chance pour le président Macron. On a besoin de se parler. Après, est-ce qu'on sera d'accord sur tout, en tout temps, tout lieu, toutes circonstances, ça c'est une autre affaire.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge. Auteur, réalisateur, producteur étaient réunis hier soir autour de la question de l'audiovisuel français et de son avenir, réunion à Paris. Face aux dirigeants, notamment de France Télévisions, les cinéastes ont voulu faire entendre leurs craintes, Fiona Mogadam.
La première des inquiétudes, c'est la réforme de la redevance. Nécessaire pour la plupart des personnes présentes dans la salle, elle n'est plus adaptée à notre monde actuel. Mais beaucoup s'inquiètent de son éventuelle suppression, comme l'a évoqué le ministre Gérald Darmanin en mars dernier. Parce que le financement de l'audiovisuel, c'est aussi son indépendance, rappelle la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Une indépendance synonyme de liberté qui est indispensable à la création, estime de son côté Pierre-Antoine Capton, directeur d'une société de production française. En 20 ans, France 2 et France 3 ont par exemple produit plus de 1800 films. 7 ont décroché une palme d'or à Cannes, rappelle le président de la société civile des producteurs, Radou Mihailianou, qui a aussi insisté sur la nécessité de maintenir une régulation dans ce secteur pour faire face aux géants américains notamment.
Disney Fox, cette année, va investir 22 milliards de dollars dans la production audiovisuelle. La France, l'Europe n'aura jamais ces moyens-là. Nous, on a toujours combattu avec les armes de la diversité culturelle. C'est pour ça qu'on a inventé l'exception culturelle, justement pour nous donner la capacité, à travers la régulation et la loi, de pouvoir exister. C'est-à-dire que nos pensées ne soit pas que dépendante du marché, ça veut dire que de l'argent.
Le président de la Société des producteurs qui compare les grandes plateformes étrangères à des hypermarchés de la culture et de l'audiovisuel et qui met en garde, il ne faudrait pas se réveiller dans 50 ans en se disant que les petits commerces, c'était mieux, sans rien avoir fait pour les défendre.
Après de belles éclaircies dans la matinée, la pluie et les nuages gris vont arriver par l'ouest ce mardi. Comptez ce matin 10 degrés à Strasbourg, 12 à Rennes et Lyon, 13 à Paris, 16 degrés à Marseille. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
La biodiversité est à la une de votre journal des idées ce matin Jacques, puisque les experts de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et sur les services écosystémiques, ces experts ont présenté hier un rapport alarmant.
Oui, vous en parliez dans le journal d'ailleurs. Clara, un million d'espèces sont menacées d'extinction, c'est-à-dire le quart des animaux et des plantes connues, comme le souligne Jean-Paul Fried sur le site de l'Obs. Les espèces de vertébrés sont parmi les plus touchées. Depuis la Renaissance, nous avons déjà provoqué l'extinction de 680 d'entre elles. Depuis 1970, leur population aurait chuté de 40% pour les espèces terrestres, de 84% pour celles d'eau douce et 35% pour les vertébrés marins. Le professeur Joseph Settle, co-président de l'évaluation mondiale et auteur principal de l'étude, résume ainsi la situation. Les écosystèmes, les espèces, les populations sauvages, les variétés locales et les races de plantes et d'animaux domestiques se réduisent et se détériorent, voire disparaissent. Le réseau essentiel et interconnecté de la vie sur Terre se rétrécit et s'effiloche de plus en plus. C'est une menace directe pour le bien-être humain dans toutes les régions du monde et pour la sécurité alimentaire, en cause notamment notre utilisation des terres, l'agriculture et la déforestation, mais aussi des mers avec la surpêche, le changement climatique d'origine humaine, la pollution, l'introduction d'espèces invasives. L'agriculture et l'élevage occupent plus du tiers des surfaces terrestres, consomment les trois quarts des ressources en eau douce, une expansion qui se fait au détriment des forêts, des zones humides. Pour Sir Robert Watson, président de l'IPBES, il n'est pas trop tard pour enrayer cette évolution à condition d'entreprendre une réorganisation fondamentale de tout le système au travers des facteurs technologiques, économiques et sociaux, ce qui comprend les paradigmes, les buts et les valeurs. Comme le souligne Jade Lingard dans Mediapart, les auteurs du rapport mettent directement en cause les politiques de croissance économique comme facteur majeur de la catastrophe en cours et ce, au détriment de la conservation et de la restauration de la nature, d'où l'appel à un changement de paradigme économique, même si le terme de décroissance a disparu du rapport final. Comme les États sont signataires, les discussions ont été animées et par exemple, la France et la Chine se sont accordés pour supprimer toute mention aux droits des peuples autochtones, alors que leur contribution à la préservation des écosystèmes, leur culture de l'usage respectueux et durable des ressources, ainsi que leur vulnérabilité aux destructions en cours sont reconnus par le document officiel. Pour la France, il s'agissait notamment, à travers le refus de reconnaître des droits communautaires, d'évacuer les revendications des peuples autochtones de Guyane. La nature n'est pas uniquement une jolie chose, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, ce sont des protections contre les événements climatiques extrêmes, comme les grandes crues, les ouragans. La nature sous-tend les sociétés humaines, affirme Yun Jae-shin, l'une des auteurs du rapport de l'ONU. À cet égard, le philosophe Timothy Morton invite à modifier nos manières de penser. Dans un livre paru chez Zulma, sous le titre « La pensée écologique », il estime que nous devons dépasser le concept de nature. Il s'en explique sur le site AOC. La nature est un concept très problématique parce que les choses ne se contentent pas d'exister autour de nous. Elles nous affectent, ce qui signifie que l'espace social ne s'arrête pas aux abords de notre propre espace humain. Contre la pensée binaire en termes de ce qui est dedans ou dehors, le philosophe célèbre les vertus critiques du concept d'anthropocène qui renvoie à un immense conglomérat constitué de toutes sortes d'êtres vivants ou d'objets comme des humains, des vaches, des rues, des moteurs à combustion ou des prothèses, tous se superposent et interagissent. Un concept qui aide aussi à penser les êtres humains d'une manière non raciste et non patriarcale, même s'il contient le mot grec pour désigner l'homme, il est non anthropocentrique car c'est le préalable indispensable pour accepter l'idée qu'on peut penser l'humain autrement que comme un sauveur ou un héros. Nathaniel Rich a mené une enquête détonnante sur la responsabilité des politiques aux États-Unis qui connaissaient dès 1979 les conséquences désastreuses du changement climatique. Le rapport Charney avait alors établi un consensus scientifique et le président américain Jimmy Carter avait lancé une étude sur les conséquences sociales et économiques du réchauffement. Les industriels étaient prêts, prévoyant que tôt ou tard des décisions drastiques seraient prises. Mais face à l'apathie des politiques, ils ont changé leur fusil d'épaule et se sont arrangés pour que ces décisions ne viennent jamais. Ils se sont en quelque sorte radicalisés en finançant des campagnes de désinformation. L'interview de Nathaniel Rich est à retrouver dans le magazine Society. Son livre est paru au Seuil sous le titre « Perdre la Terre, une histoire de notre temps ». Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui l'antiféminisme des populistes nationalistes de Vox à Trump.
Oui, beaucoup de ismes vous allez voir, alors qu'en France dimanche dernier, les têtes de liste Renaissance réclamaient dans le JDD un pacte Simone Veil à l'échelle européenne, et bien l'Espagne, elle, vous le savez, va voir entrer dans son Parlement une des formations les plus radicalement et ouvertement anti-féministe en Europe, c'est Vox, un parti nationaliste et anti-féministe, et c'est lié, expliquez-vous, dans un article pour l'Iris. Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Chercheuse, bien sûr, sur les États-Unis, auteure de La Revanche de l'Homme Blanc, mais aussi directrice du nouvel observatoire genre et géopolitique de l'Iris. Alors, juste un mot sur cette tribune dans le JDD. Hein. Les acquis des droits des femmes en Europe sont menacés. C'était un des constats ou des affirmations de ces tribunes, donc signée Marlène Schiappa, Nathalie Loiseau. Elle plaide pour ce pacte Simone Veil pour harmoniser, disent-elles, les droits des femmes en Union Européenne par le haut. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une sorte de clivage pro et anti-féministe, même si ça ne l'est pas encore dans cette campagne européenne ?
Pour l'instant, on ne voit pas ce clivage s'exprimer de manière très, très franche. En tout cas, de manière homogène dans la campagne, dans tous les pays européens. En revanche, il y a depuis quelques mois, quelques années, des tentations très fortes d'un retour en arrière sur les droits des femmes en Pologne, en Hongrie, en Italie. Une des idées intéressantes à porter, effectivement, au niveau européen, c'est l'harmonisation d'une législation sur l'accès à l'avortement, qui, pour l'instant, est du ressort des différents États.
Et alors l'accès à l'avortement qui est une des cibles du parti Vox en Espagne, justement nouvellement élu, 24 députés, 10% des voix et presque 75% des électeurs qui seraient des hommes, nous disent les sondages. Il y avait une politologue espagnole, Silva Claveria, qui disait à l'AFP que c'était une contre-attaque anti-féministe en Espagne, eu égard à tout la mobilisation féministe des dernières années. Est-ce que vous seriez d'accord?
Oui, on observe dans ce pays comme dans d'autres, mais cet exemple-là est très intéressant, une espèce de volonté de retour de bâton sur les droits des femmes, mais plus globalement sur les questions d'égalité des genres. les droits des LGBTI, la peur de l'homosexualité, la haine de l'homosexualité, la peur de la des transgenres hein, également. Et ce qui est intéressant avec Vox, c'est que Vox, autour d'un discours très global sur la menace qui existerait contre l'unité nationale avec les séparatistes, par exemple, eh bien, arrive à agréger tout un tas de choses qui finalement n'ont pas grand chose en commun, mais autour de cette idée de menace de l'unité nationale et l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les violences domestiques, où l'Espagne a eu des lois très importantes, le mariage homosexuel il y a une quinzaine d'années, la question de l'accès à l'avortement, la menace qui existerait sur les valeurs traditionnelles, le mariage, etc. Tout ceci se retrouve dans un discours très très identitaire, avec des mots très durs, hein, d'un des leaders de Vox, Francisco Serrano, qui parle de dictature des femelles, djihadisme du genre.
Ouais, le porte-parole de Vox.
Voilà des mots qui sont très très forts et qui expriment l'idée d'être menacé par un pouvoir féministe, un pouvoir féminin, je ne sais pas, qui mettrait en péril un certain nombre de valeurs et le pouvoir masculin aussi.
Et alors, crispation, pour rester sur l'Europe, on peut même parler des autres pays, mais d'un pouvoir, disons, patriarcal qui se sentirait menacé effectivement, ou projet de restauration familiale à plus long terme. Oui. On voyait par exemple Matteo Salvini, le leader de la Ligue en Italie, aller au congrès des familles à Vérone, qui est un des gros congrès européens justement de la famille, on va dire, monoparentale, qui qualifiait l'homoparentalité de non naturelle justement, et qui avait fait annuler la mention parent 1 et parent 2 sur les cartes d'identité pour les remplacer par père-mère. Donc déjà une étape de franchie.
Oui, on retrouve dans cet exemple-là une sacralisation de la biologie, avec l'idée qu'une différence sexuelle innée bien conditionnerait les rôles sociaux de manière définitive, et qu'il y a d'un côté les hommes, d'un autre côté les femmes, que chacun a des rôles politiques et sociaux, etc., et que ça s'inscrit dans un ordre politique plus vaste, qu'il serait dangereux de remettre en cause, parce que c'est une société pleine de repères qui se fragiliserait. Alors vous avez effectivement d'un côté la tentation de séduire un électorat attaché aux valeurs religieuses, vous avez aussi une autre partie de la population qui n'est pas forcément la même, mais qui tient aux valeurs patriarcales, au fait que ça existe depuis longtemps, que le pouvoir est plutôt masculin, il est plutôt blanc aussi. On va retrouver cette idée de... ça va se croiser avec finalement la peur du cosmopolitisme, la peur du multiculturalisme et la crispation parfois sur l'avortement, le fait de vouloir lutter contre l'accès à l'avortement. On va retrouver une rhétorique, par exemple en Pologne, mais aussi aux États-Unis ou ailleurs, disons que finalement, si les femmes blanches font moins d'enfants, le risque, c'est que les pays soient repeuplés ou envahis par d'autres populations qui, elles, font beaucoup d'enfants. Voilà, on est dans cette mythologie-là, et on va retrouver des choses qui se croisent autour de la menace mythifiée autour d'une identité perdue.
Alors, on va parler des États-Unis tout de suite, et juste pour conclure sur l'Europe, donc on aurait, selon vous, pour simplifier, une instrumentalisation de l'antiféminisme et des thèmes anti-LGBT par crispation nationaliste. Ce serait ça, comme en Hongrie, par exemple, où il y a eu toute une campagne pour l'exclusion, par exemple, des études de genre à l'université récemment.
Oui, au prix parfois de contorsions qui peuvent prêter à sourire, avec chez Orban, le fait qu'il critique l'influence de George Soros, qui a financé un certain nombre de départements universitaires, mais par ailleurs, il va critiquer aussi le marxisme, alors que c'est contradictoire avec la critique de Soros. Et on constate aussi au Brésil la même chose, l'annonce de la fin de financement de certains départements universitaires en sciences humaines et sociales, comme si la critique sociale, comme si l'analyse du réel, l'analyse de la complexité du réel par par les sciences sociales, dont les études de genre font partie, mettait en péril un pouvoir qui ne veut pas être critiqué et qui veut rester sur des certitudes ancestrales que la recherche remettrait en question.
Bon, et vous l'avez souligné aussi, hein, de la même manière aux États-Unis, il y a aussi une lutte, on pourrait dire, de l'administration Trump contre un certain nombre d'avancées à l'époque sur les questions de genre, la présence des LGBT remise en cause dans l'armée, une bataille administrative à venir. Mais dans cet article, vous expliquez aussi que la question a débordé sur le géopolitique, puisque ça a pesé sur une résolution à l'ONU récemment.
Oui, la pression américaine sur le fait qu'on enlève toute mention à la santé sexuelle et reproductive des femmes sur les enjeux de viol de guerre, a suscité une indignation internationale. Et c'est très intéressant parce que c'est comme si les États-Unis, alors c'est les États-Unis de Trump, mais c'est toute une tradition ultra-conservatrice qui n'est pas arrivée avec Trump. C'est comme si les États-Unis voulaient imposer au reste du monde une idéologie à la fois ultra-religieuse, patriarcale, et qui témoigne aussi d'une méconnaissance assez grande de cette question sur le plan mondial, parce que les viols de guerre, c'est pas seulement le risque d'être enceinte, c'est aussi parfois des mutilations, des traumatismes physiques et psychiques pour des femmes, pour des hommes aussi d'ailleurs, parfois très jeunes, des enfants. Donc il y a une mise en péril de la vie de nombreuses personnes qui est en ligne de mire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est sous-estimé, qui est méconnu par cette administration-là. Et on voit bien aussi que finalement, on est dans un refus de connaître la complexité du réel.
Oui, même si les officiels aux États-Unis, en tout cas des porte-paroles anonymes, se sont défendus de vouloir justement amoindrir les droits des LGBT. Puis dernière chose, si on retourne à l'Europe, il y a aussi une forte présence du féminisme comme thème de campagne, hein, dans certains partis qu'on pourrait dire populistes. Marine Le Pen ne s'en n'est pas caché il y a 2 ans. Déjà, beaucoup de femmes qui sont à la tête de certaines formations populistes aussi, Pia Kjaersgaard au Danemark ou Siv Jensen en Norvège. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? C'est du gender washing ou alors une prise de position plus compliquée qu'on ne pense?
Il y a une part de gender washing, de mettre des femmes en première ligne pour se dédouaner de toute forme de misogynie. Et puis, certaines femmes leaders d'extrême droite, parce qu'il y en a, finalement, considère que le discours patriarcal n'est pas si important, n'est pas si grave, que l'essentiel c'est dans la préservation de l'identité blanche, et un discours très raciste. On peut retrouver aussi des velléités homophobes, de protection d'une société fermée sur elle-même, conservatrice. Et ce sont aussi parfois des femmes qui adhèrent aux valeurs conservatrices, notamment religieuses, parce que c'est leur background, elles ont été élevées comme ça, elles ont vécu comme ça. Ça mettrait aussi en péril leur propre repère. Mais ce qu'on constate aussi dans les mouvements d'extrême droite ou de droite radicale ou très conservatrice, qui peuvent fustiger les droits des femmes, les droits des LGBTI, etc., c'est que ils tentent de se dédouaner de ces idéologies-là en accusant les migrants, les musulmans, les autres, le sexisme, ouais. L'homophobie, c'est pas nous, c'est les autres. Vous voyez bien que les viols collectifs, ouais. Que ceci, que cela, c'est pas nous, c'est ces populations-là.
Et où le féminisme apparaît comme arme xénophobe, on va le dire.
Absolument,
comme ça.
Ouais.
Eh bien écoutez, ce sera à suivre avec ce nouvel observatoire genre et géopolitique à l'IRIS qui va être inauguré bientôt. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave et bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver les matins de Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et vous vouliez évoquer la disparition du journaliste Arnaud Dubus.
Absolument, un beau portrait d'Arnaud Dubus est paru hier dans le journal Le Monde. Ce grand journaliste spécialiste de la Thaïlande s'est tué le 29 avril dernier, il avait 56 ans. Je connaissais le travail d'Arnaud Dubus, mais je ne connaissais pas l'homme. Tout ce que je sais à son sujet provient des portraits qui lui sont consacrés. La figure de cet homme m'obsède à un moment où l'on évoque les suicides de policiers, les suicides de salariés de France Télécom, dont il va être question dans la matinale. Qu'est-ce qui peut pousser un journaliste à se tuer ? Alors il faut évidemment être infiniment humble par rapport à cette décision ultime. L'article du Monde évoque un homme tirant le diable par la queue, parvenant à grand-peine à placer des piges, à vendre, je cite, des articles nuancés sur l'Orient compliqué. Arnaud Dubus explique Le Monde en aurait conçu une certaine amertume, laquelle l'aurait conduit au mi-temps de la cinquantaine à arrêter le journalisme. J'imagine à quel point les transformations du métier de journaliste, ces involutions, faudrait-il dire, donnent parfois l'impression de travailler dans un vidéoclub. Vous savez, ces magasins qui existaient jadis et qui louaient des cassettes vidéo aux possesseurs de magnétoscopes. Impossible, je crois, d'être journaliste aujourd'hui sans se dire que quelque chose de ce métier est en train de disparaître, décomposé par Internet, le buzz, les idées toujours plus simples, appliquées à un monde toujours plus compliqué. Nombre de journalistes luttent pour survivre et ou luttent avec leurs démons, la bouteille, la poudre, autre chose. C'est même probablement ce qui les a incités à choisir cette profession, comme si un monde intérieur trop agité les incitait à porter leur regard vers l'extérieur, comme si l'actualité était une manière d'échapper à une intériorité trop grave, trop oppressante. Je ne sais évidemment pas ce qui a pu conduire Arnaud Dubus à se donner la mort, mais je songe à tous ces journalistes que j'ai lus ou connus qui ont frayé avec la mort. Charbe disant qu'il fallait mieux mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Robert Capa expliquant que si la photo était ratée, c'est qu'elle n'avait pas été prise d'assez près. S'occuper de la mort des autres est une bonne manière de moins penser à la sienne. La mort est un royaume aussi énigmatique que le royaume thaïlandais qu'affectionnait tant Arnaud Dubus.